Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Merci de nous choisir pour ce rendez-vous de l'actualité, du débat, de l'analyse et aussi du décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous savez très bien que nous abordons des sujets de la santé, environnement, et la société et aussi la politique. Tout sujet quand même qui traite de l'actualité, nous en parlons dans cette édition. Bienvenue au club alors de ce mercredi 13 novembre 2024. Le club de la presse à l'heure de ce mercredi, bien sûr, à la mise en onde, c'est qui se sent. La mise en ligne est assurée par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Lossou au micro. Nous vous saluons très fraternellement, vous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Nekro, Radio La Paix à Takpamé, Radio Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. C'est toujours un privilège pour nous de savoir que vous nous suivez aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat, le commentaire sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrères journalistes, Basile Mignacqué, bonjour.
Bonjour Pascal, et très heureux de vous savoir bien portant.
Merci beaucoup et je suis très heureux de vous savoir aussi bien portant. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, j'espère que vous allez bien.
Tout à fait.
Dieu merci. Estelle Koudzono, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux techniciens, bonjour également aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Estelle, vous allez bien?
Ça va.
Dieu merci. Abbas Issaka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les autres qui nous suivent sur moi.
C'est toujours commandant?
Oui, commandant, toujours, ça va évoluer. Même les gens sont jaloux du bon commandant là aussi.
Il semble que Patrick nous dit que c'est lui qui décerne les grades. Non. Je ne sais pas si peut-être vous l'avez abordé pour avoir votre grade, sinon c'est statique hein, depuis un temps.
Oui, il dit que c'est en principe, c'est ça ce qui est commandant, que moi je suis caporal.
Oui.
Je ne sais pas, parce que le commandant là c'est depuis...
Hein. C'est depuis ?
C'est depuis.
Mais ça n'a jamais changé. Hein.
Oui, ça va évoluer.
Merci beaucoup, Abbas, d'avoir répondu à notre invitation. Justin Nani, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour aux confrères et consoeurs. Bonjour aux techniciens. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et celles également qui nous suivent en ce moment. Et notamment nos soeurs qui sont dans les marchés, nos mamans qui sont dans les marchés du Togo. Et j'ai eu un coup de gueule à l'endroit de ceux-là qui s'occupe de l'entretien de tout ce que nous avons comme caniveau, comme buzzle au niveau du grand marché de Lomé. On en a parlé dans une émission hier, mais ça me préoccupe. Je tiens également à attirer l'attention des autorités là-dessus. Le vendredi dernier, une dame qui n'avait pas l'habitude de prendre Sotral a pris Sotral depuis Agouedé-Mapoué et arrivée au niveau de la station au niveau du grand marché, en face de la Bia Togo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un bus là qui passe là, et depuis un bon moment, il y a un grand trou qui s'est créé. Malheureusement, la dame est tombée dans le trou. La vieillard d'une soixantaine d'années est tombée. Non seulement elle est tombée, mais elle s'est plongée, puisque le bus est tellement si vaste qu'il a fallu l'intervention des riverains, les bonnes dames, les volontés, pour pouvoir la faire sortir. Malheureusement, elle est sortie avec des égratignures, des blessures un peu partout, un pied cassé. Donc, c'est la direction de la société Sotral qui a pris la mesure de prendre des soins, de la transporter à l'hôpital. Et au jour d'aujourd'hui, elle est là, elle traîne avec sa blessure, elle est sur place. Et ce qui est encore comble dans cette histoire, elle a perdu sa fille et l'enfant de la fille, là, le dernier qui fait l'université, vit avec elle. Donc c'est elle qui s'occupe de l'enfant. Donc vous vous imaginez l'état dans lequel se trouve aujourd'hui cette vieille-là, d'adopter, comme on l'appelle, Madame Maninefa. Donc je tiens sincèrement à ce que ceux-là qui s'occupent donc, de l'aménagement ou des techniciens également au niveau des ministères puisque selon nos informations, la direction de la Sautrale a voulu dans un premier temps peut-être apporter des solutions à ce grand trou-là. Mais on nous a fait savoir que les voies les plus autorisées ont refusé. À quelle fin, personne ne le sait. Mais chaque jour que Dieu fait, on constate ces genres de situations dans ces endroits, notamment au niveau du Grand Marché, où il y a tellement des trous un peu partout. Donc, je pense que l'autorité doit quand même tenir compte de cette situation-là et faire en sorte que nos mamans puissent quand même aller et revenir dans cette situation très difficile dans laquelle nous nous trouvons.
Mmh, le message est passé. Basile, oui. Demain, c'est le 14 novembre. Et le 14 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre le diabète. Et votre journal Santé Éducation, ce matin, a consacré un bon nombre alors de titres pour cette maladie, cette pathologie, alors qu'il décime les populations. Vous êtes revenu, bien sûr, sur le sujet. Mmh. Vous écrivez « Recettes naturelles pour prévenir et gérer les risques du diabète ». C'est bien ça.
Oui, Pascal, aujourd'hui, je pense que tout le monde doit être interpellé. Le diabète fait du ravage. Nous qui sommes ici, nous qui parlons, et tout cela, toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent à l'heure actuelle, les premiers responsables de la santé du Togo et d'autres responsables qui ne sont pas liés directement à la santé, et nous devons prendre ce problème à bras le cœur, à bras le corps plutôt. Et parce que le diabète est en train de décimer la société. Et ça fait 20 ans, on disait que nous étions à 1-2%. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la fourchette de 6-7. Et la réalité est tout autre sur le terrain. Et cette interpellation va à l'endroit de tout citoyen, de se prendre en charge vis-à-vis de cette pathologie. Vous savez, notre alimentation est à la base de tout ça. Aujourd'hui, nous consommons une quantité d'aliments qui nous portent préjudice. Et aussi la qualité. Aujourd'hui, tout ce qui sort de l'industrie n'est pas digeste par l'organisme. L'organisme ne reconnaît pas. Donc, il y a un chamboulement lorsque nous prenons tous ces aliments-là. Et donc, nous disons que ce qui est grave dans tout ça-là, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur taux de glycémie et que très souvent ils arrivent sur des civières dans nos hôpitaux et malheureusement il y a des choses qui se passent et les gens perdent leur vie. Hier, aujourd'hui et demain, chaque jour, il y a des amputations. Vous devez faire ce constat-là.
À cause de la maladie.
Peut-être que c'est une seule jambe ou bien les deux jambes. Et que beaucoup d'organes vitaux sont impactés. On prend le cœur, les vaisseaux sanguins, les nerfs, on prend nos yeux, on prend nos poumons, on prend la peau, on prend les reins, on prend les nerfs. Beaucoup de nos organes vitaux sont compromis dans cette situation. Et donc, tout se passe comme la maladie là, c'est pour les autres. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ignorons que ça nous talonne. Chaque jour que Dieu fait, tout ce que nous sommes en train d'ingurgiter, tout ce que nous sommes en train de faire, ne va pas dans le sens de nous apporter cette santé. Et donc, cette parution, je voudrais que les gens s'approprient de ça pour lire les interventions même des spécialistes dedans et dire aux gens, et de nous dire ça, que ce combat est individuel d'abord, avant d'être familial et au niveau des autorités. Raison pour laquelle on a fait un éditorial qui dit nos responsabilités vis-à-vis de cette pathologie. Et donc, le premier médicament du diabète, c'est quoi? C'est l'alimentation, c'est ce que nous ingurgitons. Et donc, nous appelons à la conscience collective que moindre, parce qu'on dit que c'est une maladie silencieuse, mais elle nous prévient sans que nous ne prêtions attention. Vous voyez que j'ai dit à une de nos rencontres dans la semaine passée que ceux qui font de la marche du sport, ils portent des casquettes pour faire la marche du sport. Je leur demande de leur ôter ça, de ôter ça. Lorsque vous marchez, vous faites écouter votre organisme. L'organisme donne toujours des signaux que nous devons prendre en compte. Même au réveil, chaque matin de votre lit, vous devez avoir une information venant de votre organisme. Ou bien en pleine nuit, vous devez avoir cette information. Donc ce sont des choses que nous négligeons et que finalement, ça nous prend de court et avec tous les dégâts possibles. Donc aujourd'hui, demain, c'est une journée. Mais sur les 365 jours, nous devons écouter notre organisme.
Notre organisme nous parle.
Évidemment. Et donc, nous avons mis des recettes là-bas. Nous avons mis des légumes. Nous avons mis des fruits avec leur taux de glycémie. C'est-à-dire leur apport calorique. Donc, il est bien vrai que le diabète mange tout, mais doit respecter une proportion pour préserver son pancréas. Parce que le pancréas est un peu fatigué. Il y a plusieurs types de diabète. Nous avons mis dedans. Les gens, en lisant l'article, les gens vont comprendre à quel niveau ils se situent.
Tout à fait.
L'essentiel est que nous soyons dans la prévention, dans l'accompagnement aussi, et puis dans la politique de gestion de cette maladie. Ça, c'est au niveau des autorités politiques. C'est que d'encourager la société civile, les associations à jouer leur rôle tout en mettant des ressources à leur disposition. Parce qu'aujourd'hui, on parle de assurance maladie universelle. On parle de la prise en charge. Mais nous devons faire attention pour mener la prévention, mettre la prévention en amont. C'est valable pour tout le monde. Est-ce que vous voyez? C'est valable pour tout le monde. C'est pourquoi nous disons que vous, et Pascal, moi ici, nos collègues ici, ceux qui nous écoutent d'ici demain doivent savoir à quel niveau ils se trouvent vis-à-vis de cette maladie. Qui fait? Parce que lorsque tu rentres dedans, c'est difficile de sortir.
Voilà.
Et fais tout et tout pour ne pas rentrer dedans. Et lorsque tu rentres aussi, mener une lutte avec une efficacité. C'est ce que je voulais dire aux gens. Ce n'est pas une fatalité lorsqu'on a le diabète. C'est réversible. Hein? On peut renverser ça et puis avoir une hygiène de vie adéquate. Donc, c'est ce que nous avons dit dans cette parution. Et nous invitons tout le monde à se prendre en charge, à mettre la prévention. Nous mettons, parce qu'on dit chaque temps, mais aujourd'hui, il faut passer à l'action. L'heure est à l'action. Il ne faut pas écouter seulement. Mais comme on le dit, tout le monde veut, tout le monde souhaite être riche, mais tout le monde ne peut pas être riche. Il faudrait décider d'être riche et donc de mettre les moyens à sa disposition pour faire face à ce fléau. Nous disons qu'il ne faut pas rentrer dedans. Vous rentrez, faites tout et tout, vous sortez. Prenez vos médicaments. Buvez de l'eau. Nous avons dit, le simple fait de boire de l'eau,
vous avez écrit,
participe.
Boire de l'eau pour baisser la glycémie.
Tout à fait. Les gens ignorent, du matin jusqu'au soir, ils se disent, pendant toute la journée, je n'ai pas bu. Est-ce que c'est le temps? Je dis non. Parce que c'est l'eau constitue 60 à 70% de notre corps. Donc, ce qui veut dire que notre corps baigne dans l'eau. Donc, nous devons boire de l'eau suffisamment pour permettre à l'organisme de jouer pleinement son rôle d'équilibre.
Vas-y, donc, c'est vrai que autrefois, ces maladies sont considérées comme des maladies des riches. Ces maladies non transmissibles, bien sûr, sont considérées comme des maladies des riches. Mais aujourd'hui, c'est que toutes les couches même sont atteintes alors de ces maladies, et où on retrouve cela même d'ailleurs chez les pauvres.
Oui, parce que pourquoi ? Parce que nous avons changé notre système de vie. Nous avons changé notre alimentation. Vous allez dans les villages aujourd'hui, dans les hameaux les plus reculés, vous allez voir tout ce que les gens mangent. Même concernant la viande, concernant les boîtes de conserve, je te dis que les spécialistes aujourd'hui disent que ce qui sort de l'industrie n'est pas digeste pour l'organisme. Et ce, ouais, parce qu'on a mis dedans, on a mis des choses dedans qui ne favorisent pas l'organisme de mieux gérer. Et donc, nous ne faisons plus de sport aussi. L'année passée, vous étiez avec nous au marché d'Assiéyé.
Tout à fait.
Nous avons fait quoi des tests. C'est pas possible. C'est une explosion. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une bombe. Peut-être que nous ne voyons pas la portée, mais si vous allez dans les centres de formation sanitaire, vous allez voir la prise en charge, les lits qui sont occupés. Vous allez voir qu'il y a de diverses sortes de pathologies dues à un dérèglement de notre glycémie. On n'a plus les gens même. On a fait le test qui est monté jusqu'à 4. C'est énorme. Alors que c'est au plus c'est 70 à 1,25. Et puis ça. Mais les gens vont jusqu'à 3-4. Et vous voyez. Donc ce qui veut dire que nous avons changé notre hygiène de vie. Nous avons changé notre façon de vivre et ça nous porte préjudice. J'ai lu un article sur la personne la plus âgée aux États-Unis aujourd'hui. C'est une dame. Elle a fêté en septembre dernier ses 114 ans. On l'a dit que qu'est-ce qui était son secret? Elle a dit d'abord que les corvées à la maison. Parce que la plupart de nos dames se plaignent que ils sont submergés par des activités physiques dans le ménage. Alors qu'elle a dit que non, que ce sont ces activités qui font que elle maintient son poids, elle maintient ses activités physiques voilà.
Oui.
Et après, elle a dit que non, que c'est de l'eau, qu'elle boit aussi régulièrement de l'eau.
Voilà.
Donc, pour dire que nous devons, parce que l'homme, il est intelligent, on peut changer. On peut renverser la situation.
D'accord, c'est on ça peut renverser la situation. Alors, Basile, vous mettez aussi un lien entre le diabète et la santé sexuelle. Vous écrivez santé sexuelle quand le diabète nuit à la libido.
Ah, parce que lorsque le diabète frappe à votre porte, c'est que votre libido souffre. Ça, c'est automatique. Donc, c'est un dérèglement de l'organisme. Nous conseillons aux gens de se rendre dans une formation sanitaire. D'abord, ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des gens vont vers l'automédication. Ah, j'ai pris ça, ça a amélioré ma sexualité, j'ai pris ça. Alors qu'il faut arriver à optimiser, à équilibrer la glycémie avant que votre libido ne reprenne son droit de cité. Donc, lorsqu'il y a diabète dans un couple, bien, lorsque vous avez ça pré-diabétique, personne à obèse, parce qu'on dit que l'obésité aussi c'est une pathologie. Ceux qui sont obèses, écoutez-moi, c'est aussi une pathologie aujourd'hui, c'est déclaré. Donc, faites tout et tout pour maintenir son poids normal, prendre ses médicaments régulièrement, faire du sport. Je pense que ce sont des choses que nous ne payons pas, mais qui peuvent vous procurer cette santé. Donc, aujourd'hui, vous avez cette maladie. Allez d'abord, nous disons, allez à l'hôpital. Allez voir un spécialiste. Discutez avec ce spécialiste. Parce que chaque organisme avec ses réalités.
Tout à fait.
Discutez et puis et d'accord. Voir ce qu'il faut faire.
Merci beaucoup, Basile Mignacquet. Votre journal, nous l'avons dit, c'est un journal spécial alors qui traite du diabète, de la lutte contre le diabète. Et la journée internationale de lutte contre le diabète, c'est demain, 14 novembre. Et si on veut avoir le journal en papier, en PDF, qu'est-ce qu'on peut faire?
Peut voir le journal en papier. Il faut appeler le 96 14 97 97 ou le 91 119 47 07 parce que nous l'avons sur papier dur et puis nous l'avons aussi sur la plaque numérique. Voilà. Donc, et puis si vous allez aussi sur notre plaque, il y a beaucoup d'informations, des milliers d'informations qui pourra vous aider, qui sont ces informations qui sont gratuites, qui pourront vous aider à se prendre en charge.
D'accord.
Nous sommes dans la prévention, comme vous le dites. Nous ne traitons pas les maladies, mais nous sommes un pont, un canal pour produire l'information et la vraie information que nous détenons des spécialistes et c'est ce que nous mettons à la disposition.
Et l'objectif est de sensibiliser les populations sur ces maladies.
Sur tout ça, nous sommes dans la sensibilisation. C'est un journal thématique de prévention.
D'accord. Merci beaucoup, Basile Mignac, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Alors, sans transition, après la santé, nous parlons de l'environnement. Alors, chers confrères, rebonjour. Abbas Issaka, c'est vrai, votre journal Le Mania Libéré titre sa une ce matin, gestion des déchets dans le Grand Lomé. La priorité de la nouvelle gouverneure Zoriato Kassa Traoré. On sait que Mme Kassa Traoré a pris fonction tout récemment, c'était la semaine dernière, et gouverneur du district autonome du Grand Lomé. Et déjà, la priorité, c'est bien alors l'environnement.
Oui, c'est l'environnement. Parce que vous savez, au départ, on nous disait, on appelait Lomé la belle. Aujourd'hui, les gens ironisent en disant que Lomé la poubelle. Comme il faut le faire, il faut lutter contre cette politique qui est devenue polluante pour toute la capitale togolaise. Il faut mettre de l'ordre. Il faudrait que les populations même s'impliquent dans la gestion de cet environnement des déchets. Vous n'êtes pas sans savoir que souvent ces déchets, ces poubelles-là sont dus à nos comportements et que on préfère jeter la poubelle un peu partout. Entre-temps, il y avait la NASAP qui avait mis en place des poubelles là où, au bord des routes, où si vous mangez, vous devez jeter ça sur la route. Mais ça a disparu un moment. Depuis quelques temps, on ne voit plus ces poubelles-là que la NASAP a placées pour faire donner la propriété à notre capitale. Et on voit que cette pratique devient beaucoup plus dangereuse pour la capitale où on a même créé des comment on les appelle les décharges. Il y a des décharges intermédiaires
voilà.
Et les décharges finales qui sont au niveau de AKP ou ce qu'on appelle ça, décharge d'enfouissement où les déchets même sont traités. Mais tout ça a été abandonné au niveau des communes, mais on éprouve des difficultés à gérer, à maîtriser comment gérer ces déchets-là. Et les directions techniques au niveau des communes ont expliqué avoir des difficultés pour gérer les déchets. Donc aujourd'hui, madame la gouverneure, quand elle est nommée, elle a pris ses fonctions, mais maintenant, officiellement, elle est installée. Elle veut lutter contre ces genres de situations, ces genres de pratiques, et elle veut appeler la population à beaucoup s'impliquer dans la lutte contre la pollution même de la capitale, dans la lutte contre le fait que les déchets soient beaucoup plus salis, beaucoup dans notre capitale. Et ça a rendu notre capitale très sale. Les gens disent que c'est sale. Alors qu'auparavant, Lomé était donné un exemple comme une ville très propre. Mais par rapport à nos comportements et à nos choses. Donc elle a été même voir au niveau du centre d'AKP, d'enfouissement AKP, voir comment les choses se déroulent là-bas. Et là également, on lui a relevé des difficultés que les gens ont. Donc, vous savez qu'entre-temps, il y avait au niveau des mairies des gens qui ont été recrutés, c'est-à-dire des camions, des camionnettes et tricycle pour aider à enlever les décharges au niveau de chaque maison. Mais entre-temps, il y a les communes qui ont retiré les marchés à ces gens, à ces gens, et les communes ont dit qu'elles vont gérer eux-mêmes. Or, vraiment, maintenant, quand les communes ont pris, la situation s'empire parce que les communes n'arrivent pas à prendre, à aller prendre les déchets, les ordures au niveau des foyers.
Il y a certains d'ailleurs qui voient leurs déchets ou leurs ordures rester à la porte pratiquement 3 mois.
3 mois, on ne vient pas enlever. Donc tout ça, là, ça devient un peu compliqué pour la capitale. Il faudrait mettre de l'ordre et faire de sorte qu'on ne puisse plus vivre ce genre de situation. Aujourd'hui, madame la gouverneure, elle est gouverneure de Dagle, du district de Grand Lomé. Elle doit prendre ses responsabilités. Donc, elle a dit ça. Nous devons attendre de voir ses actions et de faire le bilan après ce qui va se passer.
D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communes qui éprouvent des difficultés dans la gestion des déchets. On se souvient même d'ailleurs tout récemment de ce problème avec le Golfe Saint et le maire Abouka, et où des gens voyaient leurs ordures traîner devant leur porte pratiquement pendant 3 mois. Et aujourd'hui, avec cette politique alors de la gouverneure, il semble que quelque chose va changer.
Oui, nous l'espérons. C'est un combat noble dans lequel s'engage la gouverneure du Dagle. Vous n'êtes pas sans savoir que les maladies des mains sales ou le choléra ont un peu leur origine des problèmes d'hygiène et tout. Quand c'est une question de santé publique, je crois que ça mérite toute l'attention possible. Et c'est sur cette question que Zouretou s'engage. Donc, c'est un combat vraiment noble. Mais il faut le dire, aujourd'hui, il faut penser la chose autrement. Tu as donné tout à l'heure l'exemple de la commune Golfe 5. Il ne faut pas conjuguer le verbe à l'imparfait ou au passé. Les ordures continuent de joncher les rues dans les différents quartiers de la commune. Il y avait des tricycles qui circulaient et qui ramassaient ces ordures-là. Mais depuis que la mairie même a pris sur elle la responsabilité de le faire, la situation est criarde. Même si je reconnais que ce sont les ménages qui produisent ces ordures-là, il est du devoir également de ces services décentralisés d'assumer en fait le service après, puisque les ménages payent chaque fin du mois pour cela. Donc c'est un problème que cette mairie principalement doit résolver. Depuis, ça traîne. Non seulement ça, il faut interpeller aujourd'hui sur le recyclage de ces ordures là ça devient aussi intéressant, puisque il y a des déchets plastiques qui sont plus produits ailleurs. Vous verrez que les poubelles sont subdivisées. On vous dira de mettre les objets en verre dans une poubelle, les objets en plastique dans un autre, les déchets et qui contiennent du sable et autres. C'est pour le bien de la transformation. Est-ce qu'il faut organiser des ONG aujourd'hui qui sont sur cette thématique-là pour les financer afin de renforcer en fait la transformation de ces produits-là, puisque en même temps c'est de l'emploi pour les jeunes, en même temps ça crée de l'emploi, en même temps ça règle un problème de santé publique, ou carrément si on veut être juste dans l'enfouissement, il faut qu'on s'organise effectivement pour assumer ce service-là pour ne pas créer en fait des problèmes de santé aux populations qui en ont déjà de trop. Donc je reviens là-dessus, principalement par rapport à la commune Golfe 5, il faut que des alternatives soient trouvées. Mais au niveau des populations également, il faut qu'on fasse un peu preuve d'hygiène. Vous voyez un peu, parfois c'est depuis la construction même de nos maisons où on ne prend pas les dispositions pour la gestion des eaux sales ou la gestion de ces ordures-là. Même on est obligé de les déverser juste parfois à la sortie, à la devanture de nos portes. Mais si on s'organise, on sait que même si ça doit faire un temps avant d'être récupéré, on peut quand même les canaliser, on peut quand même les entretenir dans un milieu de telle sorte que ça ne pose pas de problème de santé aux populations qui habitent cette maison-là. Donc, en grosso modo, il faut que les ménages même s'organisent pour ces questions d'hygiène. Ensuite, les mairies qui doivent se charger de transporter, de déverser ces ces ordures-là aussi assument leurs responsabilités et réfléchir en fait sur la transformation, le recyclage de ces produits-là aujourd'hui, en même temps pour créer de l'emploi et en même temps pour régler un problème de santé publique.
Alors, oui, je sais, c'est vrai que au moment de la délégation spéciale, on nous avait considéré comme Lomé la Belle, je veux bien parler de la capitale. Abbas le disait tout de suite, aujourd'hui, on parle plus alors de Lomé la Poubelle. Mais la question est de savoir comment est-on arrivé là. Parce que quand il y a la décentralisation, c'est plus alors d'organisation.
Oui, tout à fait. En réalité, le problème ne devait plus se poser aujourd'hui. Puisqu'on parlait de la délégation spéciale, ça suppose que ceux qui étaient là, ceux qui étaient en place, n'étaient pas élus. Donc, aujourd'hui, que dans les communes, on a les maires, on a les conseillers municipaux qui sont élus. Je pense qu'il devait y avoir plus d'organisation en la matière. Malheureusement, c'est le constat amer qu'on est en train de faire. Et il n'y a pas que seulement la commune du Golfe 5. Pratiquement dans toutes les communes, le constat est là aujourd'hui. Mais il y a des ordures un peu partout. Les gens payent, comme la conseillère venait de le dire. Mais au lieu que la commune puisse quand même jouer son rôle, et malheureusement, ce n'est pas le cas.
Est-ce que nous aussi, en tant que citoyens, n'avons pas une responsabilité?
Bon, responsabilité, je dirais oui et non. Oui, dans la mesure, quelles sont les manières ou les façons dont nous sommes en train de produire ces ordures-là? Là, je pense que la sensibilisation devrait passer par là. Il faut sensibiliser les populations et voir dans quelle mesure il faut quand même faire en sorte qu'on peut entretenir, faire en sorte qu'on puisse quand même organiser. Donc, d'une manière ou d'une autre, dans les ménages, à ce que quand les ramasseurs passent, le problème ne va plus se poser. Mais lorsque l'organisation y est, et qu'en réalité, la structure qui devait charger de venir chercher ces ordures-là ne passe pas, mais là, il y a problème. Et c'est là où le problème même de la santé publique se pose. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que dans les ménages, on s'organise, on cotise, on dit, bon, à la fin du mois, vous allez payer tant, les gens cotisent. Mais là, les gens attendent ceux-là qui devraient en réalité venir maintenant ramasser les ordures. Et lorsque ça se pose, et pas dans une semaine, mais pas dans un mois, mais dans une durée indéterminée, là, c'est un problème réel. Et là, c'est là où moi, je me pose la question de savoir est-ce que la gouvernante qui est nommée, qui est là aujourd'hui, pourrait quand même s'assumer. Ailleurs, et je ne sais pas si pour des raisons politiques, parce que nous sommes au Togo, et on en fait en sorte que, au lieu de parler de la commune peut-être de Lomé ou de Cotonou ou de Dakar comme on le voit ailleurs, et on a pensé maintenant morceler les communes. Donc on parle de Golfe 1, on parle de Golfe 2, Golfe 3. Mais les problèmes sont là, réels, puisque en matière même d'indépendance, d'autonomie financière, ces communes-là sont en difficulté. Bon, même si certaines communes arrivent quand même à sortir de l'eau, c'est une question d'organisation maintenant qui revient maintenant à ces communes-là de faire en sorte que les ordures, de telle manière, de faire en sorte que ces ordures-là ne traînent plus devant les devantures, comme on le constate pratiquement dans toutes les communes, moi j'avoue.
Voilà, on va quitter le sujet alors de l'environnement. Mais on reste dans l'environnement, oui, Abbas.
C'est pour ajouter que peut-être que Madame Zouhiratou Kassa Traoré a du boulot, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est à la tête du Grand Lomé.
Ah oui.
Et il y a un problème des feux tricolores qui se posent. On ne sait pas si c'est...
Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de normaliser même d'ailleurs la normale?
Voilà le problème.
Parce que finalement, quand on voit les feux tricolores qui sont là aujourd'hui, qui ne fonctionnent plus, alors c'est comme si nous sommes habitués.
Peut-être 10% sur 90%.
Ouais, parce que là, c'est un problème également de l'environnement et de la beauté même d'une capitale.
Oui.
Vous arrivez dans une capitale, les feux tricolores ne travaillent pas. Maintenant, les maires ne savent pas si c'est à eux de prendre la responsabilité ou bien c'est d'agle de le faire. Comme on a maintenant gouverneur qui est là au-dessus de tout le monde, je pense qu'elle doit prendre ses responsabilités également là. Et j'espère que l'environnement concernera également les feux tricolores. Mmh. C'est la sécurité aussi de la population et c'est la santé également de la population. Elle a beaucoup de boulot à faire.
Finalement, Madame la gouverneure a beaucoup de défis, hein?
Oui, il y a beaucoup de défis, comme on venait de le dire. Mon confrère l'a dit tout à l'heure. On disait auparavant Lomé la Belle, mais aujourd'hui, on lance la boutade Lomé la Poubelle. Lomé la Poubelle, c'est assez triste pour nous que. Au Togo, nous avons la chance d'avoir la seule capitale au monde qui fait frontière avec un autre pays. C'est-à-dire, le Togo a la capitale qui est la seule au monde à faire frontière avec un autre pays. Ailleurs, ce sont les pays qui font... ce sont les pays même qui font frontière avec un autre pays, mais au Togo, c'est la capitale qui fait frontière avec un autre pays. Donc déjà, ailleurs, les gens devaient exploiter ça déjà pour des attraits touristiques et tout, aménager les abords là.
Deux pays,
oui. On Ghana, a le Ghana, on a le Bénin. Voilà, en même temps. Mais force est de constater que la beauté de Lomé aujourd'hui, ce n'est pas du tout attrayant. Les ordures par ici, même la gestion des panneaux publicitaires aujourd'hui, c'est aussi un autre problème à soulever. Vous voyez, vous êtes au feu tricolore et quelqu'un vient poser des panneaux sur le terre-plein central qui t'empêche même d'avoir la visibilité de l'autre côté pour traverser. Donc là-bas également, je crois que c'est du ressort des mairies. Elles doivent en fait gérer le positionnement des panneaux aujourd'hui pour ne pas entraver la circulation, pour ne pas causer des accidents indirectement. Donc madame a vraiment du travail à faire, Zoulia Toukassa Traoré a du boulot à faire pour la beauté d'abord de la ville de Lomé, la responsabilité de chacune des mairies. Il y a parfois des problèmes d'interprétation au niveau des tests également, comme l'a relevé tout à l'heure Abassi Isaka. Il faut régler tous ces aspects-là de telle à situer la responsabilité au cas où quelqu'un arrivait à manquer à la sienne. Donc elle a vraiment du boulot, mais c'est ensemble qu'on doit le faire, que chacun se remette en question, qu'elle soit à l'écoute, qu'elle soit dans une logique de travail collégial. Il ne faut pas aller par la force, mais sensibiliser et situer chacun par rapport à sa responsabilité. Je crois que ça devrait aller.
D'accord. Justin, est-ce que vous avez l'impression que Madame le gouverneur a vraiment les outils nécessaires pour relever ces défis?
Non, les outils nécessaires, je ne saurais le dire, puisqu'elle est nommée. Et en dehors d'elle, il y a encore d'autres personnalités plus importantes qui ont la charge de la gouvernance du pays, de la gestion du pays. Maintenant, si la volonté y est, je pense qu'on doit mettre à sa disposition tous les moyens, les outils nécessaires maintenant pour faire son travail. Mais je fais observer qu'elle n'est pas la seule à avoir de charge ou de lourde charge par rapport à la façon dont le Togo est géré aujourd'hui. Il n'y a pas que dans le domaine de l'environnement, pratiquement dans tous les secteurs, il y a problème. Et je dirais même que quelque part, on a l'impression que la République est bloquée, malheureusement. Mais si on veut véritablement aller de l'avant, je pense qu'il va falloir poser des bases réelles, poser les problématiques et voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions. Mais ne pas le faire, je ne pense pas que c'est Mme Traoré seulement qui a la lourde charge ou la lourde responsabilité aujourd'hui de redresser quoi que ce soit. Mais il faut quand même partir sur des bases réelles pour voir quels sont les problèmes que nous avons et par quels moyens on peut arriver à trouver des problèmes, à trouver des solutions. Et reconnaître également à un moment donné que ces gouvernants-là doivent comprendre qu'à un moment donné, il faut chercher des solutions idoines pour sortir de la situation.
D'accord. Nous restons toujours dans l'environnement. On s'intéresse à la COP 29 qui se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan. Estelle, vous êtes revenue sur le sujet ce matin puisque le président de la République, Fornia Singbe, participe à cette rencontre sur l'environnement. Et vous écrivez, vous citez même d'ailleurs les propos du président de la République. COP 29, c'est ce que vous écrivez. Fornia Singbe, l'Afrique paie le plus fort de la crise climatique. C'est bien ça?
Oui, ça, il faut reconnaître le discours du président, tout le mérite d'être célébré. Il a touché du doigt le problème épineux aujourd'hui de la gestion même de ces questions sur les changements climatiques. Il a dit, c'était avec pédagogie, hein. Il entame son discours en rejetant, mais de la manière la plus posée, la plus douce. Écoutez, nous sommes venus nous dire les vérités, les quatre vérités, quoi, sans faux fuyant. D'accord? Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes des pays en développement. Nous n'émettons pas vraiment ces gaz à effet de serre, mais nous en subissons plus les conséquences. Et si vous voulez être franc avec nous, il faut qu'on parle d'une justice climatique, en fait. C'est pas nous qui produisons le plus, mais nous subissons. Mais quand il s'agit des prises en charge, des émoluments et tout, pour faire face à ces gestions-là, nous ne sommes pas vraiment pris en compte. Donc, Il faut qu'on se respecte. Nous avons besoin d'une justice climatique. Si effectivement nous voulons lutter contre les effets de ces changements climatiques-là, si nous ne voulons pas faire dans le folklore. Maintenant, comme solution, il propose effectivement qu'on ne va pas rester chaque temps dans des discussions génériques ou dans des solutions qui sont déjà standardisées. Puisque vous êtes des pays développés, aujourd'hui, je ne sais pas combien d'industries on a en Afrique et plus précisément au Togo, ça se compte au bout du doigt. Combien est-ce que nous en produisons pour en subir vraiment les conséquences. Donc, ne venez pas nous flatter pour dire nous sommes en train de faire un sommet sur la gestion de la position des gaz à effet de serre pour le bienfait de l'environnement. Tout ce que vous faites, nous, ça impacte directement notre écosystème, nos populations, nos économies qui sont en première ligne de cette lutte-là, mais la prise en charge pour les dédommagements ne suivent pas. Est-ce que nous avons la volonté de le faire? Bien sûr, nous pouvons le faire. En témoigne déjà la signature de l'accord de Paris pour le Togo, l'engagement du Togo pour l'utilisation de l'énergie renouvelable, le programme de reboisement que nous avons déjà entamé. Mais sachez également que nous ne pouvons pas être seuls à renverser la situation, puisque le problème est aujourd'hui d'y accréer. Nous ne pouvons pas être seuls à résolver cette situation-là. Donc, écoutez-nous en prenant en compte les spécificités de chaque pays selon leur degré d'engagement sur ces problèmes de pollution et de production de gaz à effet de serre. Donc, c'est de cette seule manière que nous pouvons réussir cette lutte-là. Sinon, le reste, c'est du folklore, c'est du m'as-tu vu, c'est juste pour nous flatter. Mais nous avons besoin véritablement d'une justice climatique, comme lui-même il le dit, pour trouver des solutions efficientes et efficaces à ces problèmes de changement climatique. Bravo pour ce discours-là, c'est vraiment impactant, si et seulement si les pays développés peuvent le prendre en considération.
Alors, Abbas, c'est vrai que ce n'est pas pour la première fois que l'Afrique hausse le ton. Et dans les conférences, les COP, hein, les dernières COP, l'Afrique a toujours haussé le ton parce que déjà l'Afrique, ce n'est pas le continent qui pollue plus. On connaît quand même les continents qui polluent plus dans le monde. Et quand on va à ces rencontres, c'est vrai que chacun arrive à dire ce qu'il pourra dire. Mais il y a des présidents qui expriment aussi leurs besoins par rapport à l'environnement ou au changement climatique. Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que des gens vont vraiment à cette rencontre pour prendre des décisions comme cela se doit?
Moi, je ne pense pas, parce que si c'est que c'est pour prendre des décisions comme cela se doit, on aurait dit en finir avec ces changements climatiques-là. Depuis que les COP ont commencé, il y a un moment où on nous a fait des promesses qu'on va aider l'Afrique. On a débloqué combien de milliards, mais ces milliards-là ne sont que des promesses non tenues. On n'a même pas vu même une couleur de ces milliards-là, de ces milliards-là qu'on a promis. À chaque fois, c'est toujours la même rengaine. On va, on discute, on revient, on fait des promesses qu'on ne tient même pas. Et toujours la même chose. Et on voit que même le phénomène de réchauffement climatique s'accentue d'année en année. Le peu que vous pouvez donner ça aux Africains, c'est vous qui polluez le plus. Le chef de l'État était clair là-dessus. C'est l'Afrique qui subit le plus ce réchauffement climatique-là. À tous les niveaux, au niveau économique, agricole et social. C'est l'Afrique qui subit ça. Mais on va, on dit, on tient des promesses. Et le chef de l'État dit, il faut qu'on dépasse ces genres de promesses et qu'on agisse directement. Qu'on fasse le concret au lieu de tenir des promesses que, sur lesquelles nous comptons et ça n'arrive pas. Puisque ce n'est pas nous qui produisons, qui sommes responsables de ce réchauffement climatique, c'est eux.
Est-ce que l'Afrique a aujourd'hui un outil de pression sur ces pays pour que la pratique de ces décisions soit mise en œuvre?
Je ne pense pas. Si on avait un outil de pression, on aurait dû arriver à trouver une solution. Vous savez, chaque pays a ses réalités. Et le Togo, pour lutter contre cette situation, ce réchauffement climatique, a commencé par faire d'autres, a trouvé certaines solutions, surtout avec le renouvellement,
l'utilisation des énergies renouvelables,
tout ça là, la reforestation, qui sont faits et puis beaucoup de choses pour lutter contre la biodiversité, pour améliorer la biodiversité et lutter contre les fossiles, les gaz à effet de serre.
Oui.
Donc aujourd'hui, le Togo fait un peu sa part, mais les promesses qu'on va, on revient, les chefs d'État vont, ils se retrouvent, ils parlent, et à la fin, on dit, bon, on vous promet ceci, qu'on va décaisser. Nous allons vous dédommager. C'est comme forme de dédommagement parce que c'est eux qui créent ça. Mais que on attend, ça ne vient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas de pression. Est-ce que les Africains, en principe, devaient s'unir, se retrouver d'abord dans une union africaine là, prendre des décisions et dire que nous allons faire une pression sur eux parce que c'est eux qui sont responsables de ce qui nous arrive actuellement. Mais si on va devoir des voix éparses, chacun parle et chaque chef d'État dit ce qu'il a comme réalité, sans qu'on mette la pression pour qu'on trouve des solutions, on va en souffrir. Parce que vous avez au Togo, on a vu que même au niveau de l'érosion côtière, le Togo s'est débrouillé pour mettre des choses pour arrêter cette érosion côtière-là.
Oui, mais il y a ce projet Waka.
Ce projet Waka qui est en train de faire le travail. Mmh. Mais si on n'a pas une pression constante comme ça sur ces faiseurs de réchauffement climatique, on va toujours vivre là. Donc il faudrait qu'une union soit faite autour des chefs d'État africains.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que l'Afrique est victime de l'hypocrisie de ces puissances qui polluent plus?
Il n'y a pas que l'Afrique. Il y a aussi l'Amérique latine. Les grandes puissances sont là.
Mais pour ce qui nous concerne.
Oui, je n'en conviens pas. Mais je fais également observer que pour ces gens de racontes que moi je qualifie raconte de beaux discours, une occasion de faire one man show à travers des discours. Je ne sais pas si vous avez écouté Monsieur Denis Sassou Nguesso dans tout ce qu'il a dit. Et c'est là où je rejoins Abbas. Parce que nous sommes dans un continent. Et il a établi que nous sommes victimes d'une situation. Donc, il a été dit dans ces genres de rencontres, le pollueur paye. Ou bien, oui. Quand vous citez aujourd'hui les pays, je suivais une émission aujourd'hui où on donnait des pourcentages, on donnait des chiffres, où on a fait observer que par rapport à la position même du nouveau président Donald Trump, qui pour lui, c'est la nature, c'est pas une question de pollution, que c'est la nature même qui décide de quoi que ce soit, parce qu'il ne se reconnaît même pas dans ce genre de racontes. Il s'était retiré.
Oui, il s'était retiré. Et
il menace de se retirer.
Voilà. Donc, pour lui, si les efforts sont faits dans son pays, les États-Unis, avec tout ce qu'ils ont, et on parle de moins de 2% de pollution par rapport aux années antérieures.
Ça, c'est l'Afrique.
Non, je parle des États-Unis.
Les États-Unis, ok, d'accord.
On prend le Japon, on note que le Japon a plus pollué de plus de 3%, suivant les pourcentages. On prend la Chine qui pollue au-delà de 4% de pourcentage, et la Chine reconnaît qu'aujourd'hui, en dehors de ces pays-là qui font les efforts en matière de diminution des gaz à effet de serre, il y a encore d'autres puissances qui sont là, mais qui ne se retrouvent pas dans ces histoires. Mais quand vous les écoutez, ce ne sont que des discours. Même si c'est la position de Joe Biden qui est en train de finir son mandat, il va partir, son représentant, ce qu'il a dit, eux, ils se reconnaissent qu'à un moment donné, il faut quand même aider ces pays-là qui sont en difficulté. Mais quels sont les pays qui sont en difficulté, notamment le continent africain? Donc, ce qui suppose que les chefs d'État doivent se retrouver et parler d'une seule voix. Voilà, nous sommes victimes, nous polluons moins, mais nous sommes victimes, c'est nous qui subissons les effets de gaz à effet de serre à travers ce que nous connaissons comme les inondations, de tout ce qu'il y a comme mot. Mais sur cette base-là, si on n'arrive pas à poser clairement le problème, et chacun y va, qui fait son discours, qui fait des démonstrations, et chaque chef d'État parle en son nom pour dire, voilà, on reconnaît que voilà, on pollue moins, ça ne donnera rien. Puisque la guerre qui est enclenchée aujourd'hui dans le monde ou sur cette planète, c'est qui sera le premier? Il faut pas quand même... Quand on parle de puissance, c'est pas comment les armes nucléaires ainsi.
C'est une guerre de leadership.
Voilà. Donc nous sommes dans un monde aujourd'hui qui va vers, c'est pas un capitalisme qui ne dit pas son nom. Donc l'Afrique qui n'est pas en mesure d'industrialiser donc son continent, ces pays-là qui sont, je dirais entre guillemets, fainéants, qui n'arrivent pas à mettre sur place des industries, mais vont subir forcément de ceux-là qui s'engagent dans l'industrialisation. Vous avez vu les efforts qui ont été faits dans les années, peut-être les années de révolution par l'Angleterre et puis par le Canada par la suite, et ainsi de suite, les grandes puissances aujourd'hui qui bousculent le monde. Maintenant, si l'Afrique ne fait pas des efforts maintenant pour se mettre au-dessus de la mêlée et pour parler d'une seule voix, pour dire, lorsqu'on parle de la diminution de gaz à effet de serre, nous sommes victimes, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez nous aider, voilà, et parler d'une seule voix. Je pense qu'on va beau écouter des discours, mais la solution ne va pas être au rendez-vous.
Oui, Essel, vous avez aussi l'impression que l'Afrique doit aujourd'hui s'unir et parler d'une seule voix?
La question ne vaut pas la peine d'être posée. Si nous sommes toujours en retard, moi je crois que c'est cette unicité d'action-là qui nous manque cruellement, sur tous les plans. Il ne s'agit pas uniquement de...
Mais est-ce que vous y croyez?
Je suis pragmatique, je suis pour le moment un peu dubitative. Je le souhaite vivement, mais je suis pour le moment dubitative. Puisque je ne vois pas cet élan de solidarité-là qui se dégage tout de suite pour aller dans la même direction. C'est vrai que la plupart des discours, ça se recoupe à un endroit. Bon, on nous baratine un peu, on nous regroupe ici, on nous dit du n'importe quoi, on s'en va, rebelote l'année prochaine. Mais sans qu'on ne s'organise pour parler comme un seul homme, on n'aura pas d'impact. Mais vous voyez aujourd'hui le paradoxe. Mais on se demande, toutes les industries européennes, américaines, là, c'est quoi leur matière première? Elles les trouvent où? Elles viennent de l'Afrique, les matières premières. Mais si c'est sur ce côté-là, il faut s'organiser et voir qu'est-ce qu'on décide sur l'exploitation de ces matières-là, quel pourcentage on peut fixer, quelles sont les conditions qu'on peut leur donner pour que ces pays développés respectent avant l'exploitation pour la production. Mais il faut juste discuter. La vérité jaillit toujours des débats contradictoires. Une seule personne n'a pas la science infuse. À partir de ce moment, que les chefs d'État africains s'organisent eux-mêmes. Bon, toi, de ton côté, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Tes accords avec les pays développés là pour l'exploitation des matières premières et tout. Toi, de ton côté, quels sont les accords et tout? Ensemble, vous uniformisez vos points de vue et vous vous faites respecter sans que ça ne se fasse. Je reste vraiment dubitative, mais c'est une unicité d'action. Parler comme un seul homme, se faire respecter, je crois que ça s'impose. Et il faut qu'on sorte de cette victimisation. La situation est telle qu'aujourd'hui, on dit oui, on pille nos ressources, on fait ci, on fait ça. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour faire face à une telle situation? On est trop dans la victimisation. Sortons-en et faisons-nous respecter. Et ça ne peut qu'être une lutte commune pour les chefs d'État africains.
D'accord. Oui, mais Abbas, c'est vrai que quand on prend ces puissances hein, qui polluent plus, au même moment, ces puissances disposent même d'ailleurs des pays amis sur le continent, de telle enseigne que quand aujourd'hui chacun va, c'est pour peut-être défendre alors les intérêts alors de ces puissances, finalement, l'union dont nous parlons, l'unicité d'action dont nous parlons, je pense quand même que ça doit être un chimère. Là.
Oui, ça doit être un chimère parce que quand vous prenez, je parlais tantôt de l'union, parler d'une seule voix, parce que par rapport à la pression, on ne peut pas aller dans un combat de façon éparpillée. On dit ensemble, on peut aller loin. Si ensemble, on n'est pas ensemble et qu'on va dans une guerre en face de l'ennemi, c'est qu'on est divisé et l'ennemi trouve les moyens même de nous employer, de nous manipuler. Et c'est ça qui se passe. Si des chefs d'État ont des accointances avec ces puissances-là et qu'ils se laissent faire, parce que quand vous prenez le réchauffement climatique, chaque pays a ses réalités également. Et c'est pour cela, je pense, le chef de l'État parler de voir ces réalités de chaque pays-là pour que les financements soient conséquents, les dédommagements soient conséquents. Quand vous avez vu qu'entre-temps, au Sénégal, c'est en Côte d'Ivoire qu'on a déversé les déchets toxiques.
Justement, c'est en Côte d'Ivoire.
C'est en Côte d'Ivoire, les déchets toxiques qu'on fait. Est-ce que depuis là, on a dédommagé les Ivoiriens? On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, les choses continuent. C'est parce que les gens se taisent. On ne veut pas réagir. Et on voit, on laisse faire, on sort. Lorsque on y va là-bas, on dit, bon, nous avons subi ceci, nous avons subi cela, il faut qu'on nous dédommage. Et ceux-là, qui sont, c'est tout comme ils sont en train de se moquer de nous, de se moquer des Africains, parce que les Africains n'ont pas un moyen de pression sur eux. Quand vous voyez tous ces pays occidentaux-là, la Chine, le Japon, les États-Unis, qui viennent pour qu'ils fabriquent des choses, et viennent nous polluer ici. qu'est-ce que nous avons à faire? Parce que nous, c'est nous qui allons chercher ça là-bas. Nous achetons. On n'a pas les moyens pour les fabriquer ici. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est la révolution au niveau des pays africains, la prise de conscience au niveau des pays africains. Et cette prise de conscience va nous conduire à dire que nous sommes en train d'être victimes d'une certaine situation. On ne peut pas rester là, être toujours victime. On ne peut pas jouer à la victimisation, mais il faudrait qu'on agisse ensemble. On contrôle la solution à ce problème-là qui est en train de... Vous voyez que comment le désert est en train d'avancer. La sécheresse, elle avance. Et ça a déréglé même. On parle de du dérèglement avec les intempéries. Au moment où on attend la pluie ne vient pas.
Et le désert se bande de
beau. Et maintenant, les agriculteurs ont des difficultés avec leur production. Et tout ça là, qui va payer? Qui a causé tout ça là? Donc il faudrait qu'on puisse comprendre que nous sommes dans une situation où on ne peut pas toujours se dire victime, mais il faudrait qu'on réagisse.
D'accord. Nous allons quitter le sujet. On va s'intéresser aux détenus. Intéressons-nous aux détenus.
Détenus politiques. J'aimerais placer ce seul mot.
Oui, mais rapidement. Je voudrais rester avec toi pour parler de cette question.
Non,
de détenus.
C'est, j'aimerais placer un mot. Parce que pour dire tout simplement qu'il serait difficile pour le chef d'État africain de parler d'une seule voix, de s'unir. Quand vous prenez même certaines dimensions, notamment ces pays-là qui sont des pays lusophones, les pays anglophones, les pays francophones, et les pays arabophones, par exemple, sur le continent, les visions ne sont pas les mêmes. Et lorsque vous prenez un certain nombre de facteurs, notamment sur la base des élections, effectivement, dans ces pays-là, l'adhésion populaire, certains chefs d'État ne l'ont pas. Donc, sur cette base-là, parler d'une seule voix, et surtout qu'ils ont des ramifications avec l'Occident, je pense que ça va devoir être très très difficile.
D'accord. Alors, oui, je parlais alors de questions alors de détenus. Il y a le journal Le Triangle des Enjeux qui titre à sa une ce matin « Détention arbitraire, torture, détérioration et dégradation de santé. Des détenus meurent progressivement. » Cas de Karou Ouawim. Et c'est ce que le journal écrit avec la photo de la photo alors de l'entrée de la prison civile de Lomé. Alors c'est vrai que c'est des cas peut-être qu'on évoque. Je suivais même un reportage tout récemment sur RFI sur le Togo, bien sûr, sur ces questions. Mais on sait aussi que tout récemment il y a le secrétaire du gouvernement qui a annoncé quand même qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Bien sûr, je veux bien parler alors du ministre Christian Triman qui le disait. Alors finalement, quand le journal dit que des détenus meurent progressivement, ça doit inquiéter Justin.
Ouais, les détenus meurent progressivement. Il n'y a pas que ceux dont le journal parle qui est décédé. Il y a plusieurs qui sont décédés et qui sont arrêtés dans les affaires de Tigre Révolution, dans les manifestations de 2017-2018, qui sont arrêtés. Il y a une dame là qui, aujourd'hui, lorsqu'on l'amène, son fils, le fils n'arrive pas à reconnaître sa maman, il laisse entendre, qui veut l'entendre peut-être de retour à la maison, qu'on a amené à aller voir une maman, une dame, c'est tout, sans savoir que c'est sa maman. Donc, disons que ce qui se passe au Togo est grave. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ça ne me concerne pas, donc je ne suis pas touché, donc je ne suis pas concerné. Mais en réalité, c'est une question qui doit quand même interpeller tout le monde. Et lorsque vous vivez dans une république qui se dit un état de droit, je ne pense pas qu'on puisse quand même arrêter un citoyen pour son opinion ou sa position politique. Et tel que le dossier là est conduit depuis jusqu'à présent, et quand le secrétaire général parlait de l'organisation devant une justice, je ne sais pas de quelle justice il faisait allusion. On sait comment est-ce que la justice togolaise fonctionne dans ce pays et les circonstances dans lesquelles également ces citoyens-là, ces concitoyens-là ont été arrêtés. Les organisations de défense des droits de l'homme sont organisées, ont demandé leur libération. Mais, chose curieuse, depuis là, le pouvoir fait sous d'oreille et ne veut pas quand même libérer. Mais chaque jour que Dieu fait, on parle de ces détenus politiques qui sont tellement malades, très touchés, et d'autres meurent. Et chaque jour que Dieu fait, donc je pense que c'est un problème là, non seulement qui concerne la vie de ces concitoyens-là, mais je me rappelle également que les Nations Unies, par la voix d'une organisation, a demandé à ce que ces détenus-là soient quand même élargis. Et même la Cour de justice de la CEDEAO s'est prononcée également sur ces cas-là. Mais malheureusement, ils sont toujours en détention, et on parle chaque jour de leur situation qui est tellement gravissime. Ce n'est pas sérieux. Donc, lorsqu'on veut que l'État soit un État de droit, et un État qui se respecte, je pense qu'on doit tenir compte également de ces dimensions-là, qui sont des dimensions juridico-politiques. Donc, il y a confirmation bel et bien qu'il y a des détenus politiques au Togo et que les pouvoirs ou les décideurs refusent de le reconnaître. Moi, je pense que c'est un faux fuyant.
Alors, finalement, aujourd'hui, le processus normal devrait être qu'il y ait un procès pour ces détenus et que s'il y a peine à purger, qu'ils puissent alors leur peine.
Oui, c'est le souhait le plus ardent. Sur le dossier en question, je ne maîtrise pas vraiment les tenants et les aboutissants pour en discuter, malheureusement. Mais l'idéal pour un état de droit, c'est de respecter les tests. Quand quelqu'un est sous le coup de la loi, que le dossier soit instruit et que le procès soit prononcé pour que s'il doit purger sa peine, il purge la peine et recouvre sa liberté. Sinon, il y a plusieurs dossiers qui sont en instance depuis des années, qui ne sont pas encore vidés, les personnes attendent et tout. Le souhait le plus ardent, c'est que les dossiers soient vite instruits pour que les personnes purgent leur peine et recouvrent leur liberté.
Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de notre justice? C'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui sont là et sans procès.
Ouais, c'est un problème de lenteur judiciaire dont on parle. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait qu'à tout moment là, accélérer au niveau de la justice. Parce que quand quelqu'un est arrêté, même s'il est libéré sans jugement, on ne sait pas s'il est fautif ou pas. Il faudrait qu'on le juge, qu'on sache de quoi il est coupable. On ne peut pas le laisser là, traîner dans la prison, alors qu'on dit que bon, les gens sont arrêtés dans le cadre du droit commun. Et maintenant, on parle de détenus politiques. Or, au niveau de la justice, on dit que c'est les détenus de droit commun. Mais détenus de droit commun, il faudrait les faire sortir et les juger. Parce que sans jugement, on ne peut pas les relâcher. Si quelqu'un n'est pas jugé, le chef de l'État ne peut pas prendre une décision de grâce pour les gracier. Donc, parce que c'est, vous avez vu que toutes les décisions de grâce que le chef de l'État prend, c'est par rapport à ceux-là qui ont été jugés et qui ont au moins fait une moitié de leur peine. Si vous n'êtes pas jugé, vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes arrêté. Et vous êtes dans la prison. Mais il faudrait qu'on accélère. Je vois que le nouveau ministre de la Justice, Nam Thu Guli, est en train d'apporter beaucoup de choses au niveau de la justice et au niveau des prisons. Mais il faudrait qu'à son niveau aussi, on puisse demander que les actions puissent être menées par rapport à leur jugement. Parce que je sais qu'on ne met pas la pression sur la justice. Lorsque la justice, le tribunal a un dossier, il ne faut pas lui mettre la pression. Bon. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que les gens restent en prison pendant longtemps, alors que on connaît déjà les charges qui le sont, les charges qu'on leur reproche, qui pèsent sur eux. Voilà. Donc il faudrait faire tout pour accélérer le processus de leur jugement et pour qu'ils se situent correctement.
D'accord, ok. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner aussi la parole à nos auditeurs puisqu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Premier auditeur que nous avons en ligne, allô?
Canal F, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, comme un ange au ciel.
C'est Océni.
Océni, le messager de l'amour.
Allez-y.
Je vais parler du diabète. Gérer le diabète, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Le stress et l'ancienneté peuvent influencer le niveau de glycémie. Prenons soin de nous et n'hésitons pas à demander de l'aide. Merci et bonne émission.
Merci beaucoup, Océni, pour votre apport dans cette émission 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mercredi 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Niamavo.
Niamavo.
Allez-y.
Oui, je vous écoutais, une partie m'a fait rire. Le chef de l'État dit que c'est l'Afrique qui subit. Mais notre train, c'est au courage. Si tous les pays ont ça, imaginez un peu la pollution de l'environnement, la destruction de trucs. Mais si tous les pays qui sont retrouvés là-bas, au moins au retour, puissent avoir des trains fiables pour leur peuple, ça serait bien.
Mais si, avec...
Oui, allô?
Allô? Est-ce qu'il n'y a pas des machines, d'autres choses quand même qui polluent plus que le train?
Oui, ces machines qui polluent en Europe, qui sont les consommateurs, vous achetez une voiture de 4 milliards. C'est eux, non? Quand l'Europe produit, c'est eux qui prennent. Donc, si, les armes, qui achètent? C'est eux qui prennent. Bon, ils veulent que si l'Europe arrête de produire ça, eux, ils vont rouler dans leur fumée, là. Non? Mais ce qu'ils laissent à leur peuple, c'est les trains, là, la pollution. Oui? Donc, ça me fait rire, quoi. Et les gens produisent. Qu'est-ce que l'Afrique fait? Et il va critiquer l'Europe qui produit pour eux. Produit fini. Hein? Bonne émission.
Merci, M. Niamavo, pour votre intervention. Allô? Il est parti. 90, 86, 35, 35. 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Alors de ce mercredi, nous avons parlé de la santé avec Santé Éducation. Nous avons évoqué aussi des sujets d'environnement avec la priorité de Madame Zoriato Kassatraoré et à la tête alors du district autonome du Grand Lomé. Et aussi, nous avons parlé de la COP 29. Allô?
Bonjour Canada Femme.
Bonjour.
Richard depuis Copenhague.
Bonjour mon cher Richard, comment vous allez?
Désolé, je n'ai pas une radio à côté. Je vous téléphone directement sur mon téléphone.
D'accord, allez-y.
Bon, vous avez parlé du climat, que j'aimerais me prononcer là-dessus. Et j'ai fait un constat, et ce constat est amer. Je vis au Danemark. Et j'ai constaté que ces blancs, ils aiment la verdure. C'est-à-dire que le pays est plein d'arbres. Le pays est tellement vert. Mais, au pays, au Togo, prenez la route d'Agoy en ville. À Eden, par exemple, combien d'arbres vous allez voir? Mais pourtant, le chef d'État, son Excellence Yadema Nassindé, avait pris comme décret le 1er juin comme journée d'arbres. Nous plantons des arbres, mais on ne les voit jamais. Nous plantons et puis nous abattissons, nous plantons un arbre et puis nous abattissons 10. Vous voyez ce constat? Pourquoi ne pas prendre une loi que quand quelqu'un plante un arbre, avant d'abattre l'arbre, il faudrait que cette personne ait une autorisation. C'est tout comme tu as un enfant dans le ventre, le jour où l'enfant naît, l'enfant ne t'appartient plus. L'enfant, cet enfant ne t'appartient pas. Même si vous pouvez avoir un arbre dans votre maison, cet arbre ne vous appartient même pas. Je pense qu'il faudrait qu'on commence par faire ce genre de politique. Pour les prisonniers politiques, comme vous le dites, en tout cas, moi, à mon avis, je ne vois pas un prisonnier politique. S'il devait avoir des prisonniers politiques, les gens qui sont capables de mettre les premiers. Mais, ils font la politique, ils sont aidés. On ne peut pas faire la politique et venir dénigrer les autorités. Quand vous dénigrez vos autorités, c'est tout comme vos parents qui sont à la maison, vous les insultez. C'est comme ça. Nous, nous sommes dans la diaspora, or tu ne peux même pas insulter nos autorités qui sont en place ici. Donc, qu'on veut bien faire la démocratie, qu'on la fasse bien. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Richard de Copenhague, et pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Bonjour.
Bonjour, c'est Issy.
Oui, madame Issy.
Comme un cheveu dans la soupe, comme d'habitude.
Oui, allez-y.
Voilà, je crois que vous avez parlé de la COP 29e. La COP 29. Les présidents africains demandent qu'on leur donne de l'argent. Ils prennent l'argent chez les Blancs, là, depuis 21 machin, là. Ils font quoi avec? Ils font quoi avec? Ils nous ont même pas construit des centrales thermiques, rien. Aucune usine, rien. Et maintenant, ils vont prendre l'argent parce qu'il y a pollution avec leurs émigrants ou quoi. Les arbres sont plantés et les arbres ont 100 ans. Ils déracinent ces arbres-là pour les exporter vers les Blancs encore, pour les vendre. Hein? D'où la chaleur intense à quoi on assiste. Hein, ils désherbent. Alors que tu vas aux États-Unis, tu vis dans la brousse, en pleine ville, dans les régions, là, dans les villes. Tu ne peux pas toucher à un seul arbre ou à un seul animal. Les gens vivent dedans comme ça. Les Blancs préservent leur flore, leur faune, et puis nous, on le leur vend, hein, pour aller jouer, pour aller gringuer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez parlé d'autres choses. Bon, je vais laisser la place à d'autres.
D'accord.
Je ne suis plus beaucoup.
D'accord, merci.
Bonne chose à vous tous.
Merci beaucoup. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, je reviens un peu pour les détenus politiques. Là.
Oui, monsieur Niamh.
Oui, c'est une façon de nier les faits. Hein. S'il n'y en a pas, si réellement c'est dans leur rang que les gens ne commencent pas à mourir, c'est suspect. Il faut que les parents se plaignent. Parce que si tu prends quelqu'un, il faut le juger et le condamner. Si ce n'est pas fait, c'est à dessein. Bonne émission.
Merci, Monsieur Niamavo. Je pense que Monsieur Niamavo, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce mercredi. Nous allons revenir en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Estelle, vous avez écouté les uns les autres se prononcer. Et votre mot, votre réaction?
Chacun a son point de vue. Je n'ai pas l'habitude de commenter les commentaires des auditeurs. Je respecte la position de chacun. Mais je voudrais juste lancer un appel en disant que l'Afrique a beaucoup plus une société de consommation. Il faut que nous réfléchissions à être une société de production. Ça nous aiderait beaucoup à avancer. Ici, aujourd'hui, quand je vais au marché, que le bol du haricot à 4 500, voire 5 000, le bidon d'huile de 25 litres qui passe de 21 000 à pratiquement 32 000, 33 000, nous sommes à l'orée des fêtes de fin d'année. J'imagine encore la peine des populations dans le panier de la ménagère et tout ce qui s'ensuit. Il faut qu'on réfléchisse autrement. La nature nous a dotés de beaucoup d'atouts. On n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Mais force est de constater que nous sommes beaucoup plus consommateurs que producteurs. Il faut que nous pensions vraiment à ces aspects-là pour vivre heureux ici.
Abbas?
Non, pas grand-chose à dire sur les commentaires. Parce que chacun a son opinion et son point de vue. Et nous sommes en démocratie, chacun s'exprime.
D'accord.
Et dans son point de vue, donc, le problème, c'est que on n'a qu'à faire de telle sorte que les prisonniers qui sont arrêtés puissent être jugés, condamnés, pour qu'ils sachent leur sort. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'orée des fêtes de fin d'année. Il y a ce problème de choses qu'on appelle les périmés, qu'on met sur le marché également.
Vous voulez parler des produits?
Les produits périmés que les bonnes femmes viennent vendre dans les marchés. On dit liquidation, liquidation. Il faut faire attention à ce genre de situation. Et également, comme au niveau du service de marquage des produits, l'OTR a pris certaines décisions. J'ai vu le monsieur Ouroua Doui, qui a sorti un communiqué parce que c'est lui le président du suivi de ces marquages. Il a parlé, il a dit que depuis le 11 novembre, le contrôle a commencé. Donc, il faudrait bien qu'on contrôle, puisque les produits concernés, c'est les boissons, l'eau, les liqueurs et autres, là, si ces boissons n'ont pas de marquage fiscal togolais, il ne faudrait pas que les gens les achètent. Mmh. Et ceux-là qui les introduisent, il y a un numéro pour les dénoncer parce que c'est pour la santé de la population. Le numéro, c'est 85-85-85-82 pour dénoncer ces genres de situations. Il faudrait que la population se porte bien. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année.
D'accord. Merci beaucoup, Abbas.
Les ministres de l'économie, des finances et du commerce également qui ont abondé dans le même sens.
Dans le même sens. Communiqué. D'accord. Ok. Oui, Justin.
Non, c'est peut-être que j'aimerais rebondir par rapport à la situation des détenus politiques. Parce que on en parle pratiquement tous les jours. Mais sauf que les pouvoirs publics, les décideurs ou les autorités judiciaires n'arrivent pas à prendre les mesures pour élargir, s'il le faut, ces détenus politiques. C'est là où je dis que c'est le chef de l'État qui est interpellé. Et comme M. Nyamavo venait de le dire, si on a arrêté des gens depuis 2018 et que depuis là, le dossier est au niveau de l'instruction, l'instruction ne finit jamais, ils ne sont jamais jugés, et que parmi eux, il y a certains qui meurent un à un, je pense qu'il a lieu d'interpeller le chef de l'État. Parce que certains pensent que ce sont des otages personnels du chef de l'État. Parce que en mettant ces gens-là en détention, serait difficile également pour d'autres personnes d'aller manifester. Et je m'inscris en faux par rapport à ce que l'ami Richard de Sepal du Danemark a dit. Je ne pense pas que dans leur pays, là-bas, au niveau de l'Occident, lorsqu'on manifeste après, les forces de l'ordre débarquent notamment dans la maison pour arrêter des gens parce qu'ils ont manifesté. Là, au moins, on parle de la démocratie. Ce que je ne vois pas ici. La dame dont je faisais cas ici, je me rappelle qu'elle était arrêtée à Gouet. Et un petit matin, à la maison, lorsqu'elle est en train d'alerter son enfant, qui aujourd'hui, pratiquement de 2018, aujourd'hui, vous faites le compte, est grandi. Donc, sur cette question-là, je ne pense pas qu'on doit quand même minimiser. Ce sont nos frères qui sont en détention, ils ne sont pas jugés. Reconnaissons-le. Demandons à la justice de les juger. D'autant plus que la Cour de justice de la CEDEAO s'est prononcée également sur les cas de ces détenus politiques. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité qui est là. Faire en sorte que nos frères-là qui sont en détention soient quand même élargis.
Quelques secondes, votre note de fin d'émission.
Ma note de fin d'émission, je donne 2 sur 20.
À qui?
Aux décideurs, tous ceux-là qui sont concernés par cette situation qui a provoqué l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la dame dopée Aninefa, qui est tombée le vendredi dernier dans ce trou-là, et qui s'est vue aujourd'hui, s'est pas blessée avec tout ce qui y va. Donc j'interpelle également les décideurs de tenir compte également de la situation de cette dame-là, de s'occuper d'elle.
De suivre. D'accord. Oui, Essaye.
Non, j'ai pas de notes.
Vous n'avez pas de notes de fin. Abbas.
Oui, je donne une autre 10 sur 10 à Maître Tchassouna Mohamed.
10 sur 10,
hein? Oui, qui a obtenu une distinction notariale au Portugal.
Ah, d'accord. Mmh. Merci beaucoup, Abbas, d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Moyen Libéré. Essel, merci d'être passé aussi dans cette émission.
Le plaisir est pour moi.
Merci. Je rappelle que vous êtes la directrice de publication. Vous n'aimez pas trop le mot directrice, mais c'est ce que vous êtes, directrice alors de publication de Gazelle Info. Merci d'être passé. Merci également à Justin Anani, journaliste freelance qui collabore avec beaucoup de journaux. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutsa a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.